On retrouve tout de suite les élèves du club radio du collège Lautrentanel de Gignac.
Bonjour à tous, bienvenue sur notre radio Trentanel. Vous êtes sûrement au courant, aujourd'hui c'est Halloween et je suis sûre que vous ne savez pas tout dessus. Alors, avec toute notre équipe, aujourd'hui nous allons vous raconter tout ce que nous savons à ce sujet.
On commence avec Alphonse et sa chronique sur l'effet Mandela.
Déjà, qu'est-ce que l'effet Mandela ? Je vais vous donner un exemple. Qui a réalisé le film L'étrange Noël de Monsieur Jack ? Vous pensez que c'est Tim Burton ? Eh bien non, c'est Henry Selick. Vous êtes typiquement face à un effet Mandela. L'effet Mandela consiste en une déformation du souvenir. Vous voulez un exemple ? Le petit personnage du Monopoly. A-t-il vraiment un monocle ? Eh bien non. Le principe de l'effet Mandela est que c'est une déformation du souvenir collectif. Je m'explique. Notre cerveau, en voyant une marque, comme la marque
Looney Tunes, avec un U à la fin,
ou une image, comme le sourire de la Joconde, que certains voyaient comme pas un sourire.
C'est une distorsion de la mémoire qui conduit à se souvenir de faits qui n'ont jamais eu lieu, créant ainsi le syndrome des faux souvenirs.
Il a été appelé ainsi à cause d'une spécialiste du paranormal qui avait un souvenir parfait de la mort de Nelson Mandela en 1980, alors qu'il est mort en 2013. L'exemple le plus impressionnant est la création par la mémoire d'un faux film appelé Shazam avec deux A, et pas Shazam avec un seul A. C'est le résultat d'une amalgame entre le film Kazam, avec le basketteur Shaquille O'Neal, et le costume porté par l'humoriste Sinbad. Conclusion sur le lien entre le paranormal et Halloween. Pendant le jeu, c'est de se faire peur.
Merci Alphonse. Qui dit Halloween dit évidemment les yokai, et plus particulièrement le renard à neuf queues. Je laisse donc la place à Anissa pour une chronique à ce propos.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des yokai. Le terme yokai peut se traduire par esprit ou démon ou fantôme. Les yokai sont issus de légendes japonaises qui proviennent du Shinto, du bouddhisme, de l'histoire de la Chine. Ces créatures représentaient la peur de l'inconnu et les tourments inexpliqués dont souffraient les Japonais. Ce monstre terrifiant est souvent représenté avec des cornes et des dents pointues. S'il était particulièrement effrayant à l'époque, il devient également un esprit protecteur du foyer et en échange d'offrandes. Il y a le Kitsune, un renard à neuf queues d'origine mythologie japonaise. Il est capable de changer d'apparence et tous les 100 ans, il gagne une nouvelle queue. Ce renard est aussi un signe d'expérience et de sagesse. Ses pouvoirs augmentent au fil du temps et des années. À un certain âge, il est également capable de prendre n'importe quelle apparence et de lire dans les pensées pour pouvoir manipuler les gens, et a même la possibilité de prédire l'avenir. Les yokai sont très divers, et il y en a de toutes sortes.
Merci Anissa pour cette terrifiante chronique. Nous restons dans le thème de la peur autour des esprits et de l'exorcisme avec Anaïs.
Esprit, les origines. Les études sur le chamanisme s'accordent au moins sur un point. Aux chamans sont associés des esprits gardiens ou protecteurs. Alliés des chamans, mais aussi du monde autre, ils sont en même temps les rusés qui les déjouent et les vaillants qui les combattent. Les données sur les origines ou la nature de ces intermédiaires paradoxaux sont riches d'enseignements. Le mot provient du grec ancien « exorcismos », action d'obliger quelqu'un à accomplir une action en lui faisant prêter serment. Passé directement en latin, exorcismus. L'existence de cette pratique est supposée en Mésopotamie et attestée au premier millénaire avant Jésus-Christ. Il est également présent dans le chamanisme caucasien, les rituels africains et le vaudou. On la retrouve dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus exorcise à plusieurs reprises des possédés, de même ses disciples chassent en son nom des démons. Dans l'islam, le Coran a en lui-même valeur d'exorcisme contre les djinns, dans la pratique de Rokia. Est-ce que le jeu Ouija marche vraiment ? Oui, ça fonctionne. Quels sont les risques de Ouija ? Depuis sa commercialisation en 1890, les médias du monde entier rapportent les faits divers, aussi bien individuels que collectifs, en lien direct avec cette pratique. Meurtre, suicide, hystérie collective.
Merci beaucoup. Maintenant, voici ma chronique sur les bonbons et son histoire. Alors, les bonbons ont été inventés vers le 15e siècle en Perse antique. De base, le bonbon était de la canne à sucre, qui devient très vite une vraie gourmandise. Les premiers bonbons s'appelaient les épices de chanvre. Petites graines de gingembre ou des petits pignons de pain qui sont roulés dans du sucre et qui sont rissolés. Avec le temps, les bonbons sont devenus des monstres de l'industrie. En France, chaque habitant consomme en moyenne 3,25 kg de bonbons par an. Il y en a de toutes sortes, des rouges, des verts, des bonbons qui pétillent, qui piquent la langue et j'en passe. Et maintenant, prenez un papier et un stylo, car je vais vous donner une terrifiante recette de pierres tombales comestibles pour Halloween. Alors, il vous faudra des tranches de pain d'épices, des langues de chat en biscuits, et pour la déco, des petites fleurs en pâte à sucre, pâte d'amande. Donc, vous prenez votre langue de chat, puis vous venez l'insérer dans votre tranche de pain d'épices. Vous pouvez aussi prendre du brownie, ça marche aussi. Et vous rajoutez votre petite fleur pour la déco. Je laisse la place à Chloé pour nous expliquer l'histoire de Halloween.
Les origines d'Halloween. Halloween est loin d'être une invention américaine. Sa célébration remonte à il y a plus de 2500 ans. Vient de la culture celte, la fête de Samhain. Il s'agit de la contraction d'Alls, Hallows, Have, qui signifie la veille de tous les saints. Il faut savoir que l'année celte et gauloise s'achevait à la fin de notre mois de novembre actuel. Une nuit de pleine lune durant laquelle était célébrée la nouvelle année, censée ouvrir une brèche entre les royaumes des vivants et celui des morts. On célébrait les prix d'esprit des défunts pour tenter de les dissuader de venir hanter les vivants. Les immigrés européens apportèrent ensuite Halloween jusqu'aux États-Unis au 19e siècle. Lors de l'exploitation de l'immigration anglaise dans les pays, cette fête vit sa popularité augmentée. Halloween garda une facette occulte tout en restant ancrée dans la récolte de l'automne. Mais où célèbre-t-on cette fête aujourd'hui ? Principalement aux États-Unis. Même certaines parties de l'Asie célèbrent Halloween. Il ne s'est répandu en France seulement que dans les années 90, appelé Belsnickling. Dans les régions de l'Est, des États-Unis et du Canada, était similaire à la chasse aux bonbons. Des groupes de participants costumés faisaient de porte à porte pour réaliser des petits tours en échange de nourriture et de boissons. Selon d'autres descriptions, les personnages qui distribuaient les friandises devaient deviner l'identité des visiteurs déguisés et donner de la nourriture à ceux qui ne parvenaient pas à identifier. Au XIXe siècle, les farces étaient souvent conçues pour donner l'impression d'être causées par des forces naturelles. Certaines personnes offraient ainsi des bonbons pour protéger leur maison des farceurs, qui pouvaient causer des dégâts. Certains pouvaient aller jusqu'à démonter les équipements agricoles et les remonter sur les toits. D'où vient cette tradition des lanternes à Halloween ? Les traditions des lanternes lors d'Halloween trouvent son origine dans la mythologie celtique. Lors de la fête de Samhain, les frontières entre les mondes des vivants et celui des morts s'amincissaient. Pour éloigner les esprits des démons, ils utilisaient des lanternes souvent creusées dans des navets ou des pommes de terre. Lorsque les immigrants irlandais et écossais ont apporté la tradition d'Halloween aux États-Unis, ils ont adapté cette coutume en utilisant des citrouilles, plus larges et plus faciles à sculpter. C'est ainsi que sont nés les jack-o'-lanternes. Ces lanternes effrayantes servent aujourd'hui à décorer les maisons et les rues lors de la célébration d'Halloween.
Merci Chloé. On laisse la place à Sarah pour faire découvrir l'histoire de jack-o'-lanterne.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Jack Stingy, alias Jack-o'-Lantern. Jack Stingy est un habitant de Wicklow et aussi un homme riche. Une nuit, cette fameuse nuit de pleine lune célébrant Samhain, accoudé au bar comme toujours, il rencontre le diable. Satan tente de s'approprier l'âme de Jack. Rusé, il accepte à une condition, que le diable lui paye un dernier verre. Satan accepte et se transforme en pièce de monnaie. Jack, au lieu de passer commande au tavernier, glisse la pièce de monnaie dans sa poche. Il garde toujours au fond de cette poche une croix en argent. Satan se trouve ainsi piégé. Jack propose de le libérer s'il promet de lui donner encore 10 ans de plus. Obligé d'accepter, le diable regagne les enfers furieux. 10 ans plus tard, Satan surprend Jack au détour d'un chemin planté d'un pommier. il est comme convenu de récupérer son âme. Jack accepte cette fois-ci en échange d'une dernière pomme. Le diable grimpe sur le pommier. Jack en profite pour tracer une croix sur le tronc de l'arbre. Une fois de plus, Satan se retrouve piégé. Il est contraint d'accepter le nouveau marché que lui propose Jack. Et Satan retourne une nouvelle fois bredouille aux enfers. Si Jack avait su ce qu'il attendait, il aurait sans doute réfléchi à deux fois avant de conclure un marché pareil. À sa mort, Jack se voit bien entendu refuser l'entrée du paradis. Il n'entra pas plus aux enfers qu'au paradis. Il retourne donc d'où il vient. Pour toute consolation, le diable lui offre une braise qui le guidera dans sa longue pénitence. Depuis ce jour, Jack Stigney erre comme une âme en plaine avec sa lanterne entre le monde des vivants et celui des morts. Il réapparaît le jour de l'ouverture de la brèche entre les deux mondes, le jour de Samhain, en attente du jugement dernier. Les Irlandais, lors de la célébration de Samhain, évidaient les navets et leur donnaient un visage de pain ou creusé. Il les plaçait des chandelles à l'intérieur pour reproduire la lanterne de Jack Stigney, le maudit. Dans les années 1845, pénurie de pommes de terre entraîne une famine particulièrement meurtrière. Plus de 700 000 Irlandais immigrent en Amérique. Mais dans leur nouvelle patrie, les navets ne se cultivent pas en abondance. À la place, ils utilisent donc des citrouilles, qui font très bien l'affaire, et qui sont plus faciles à évider. Depuis, les fameuses citrouilles d'Halloween sont surnommées les Jack-o'-lanternes. Du site internet Plume d'Histoire.
Merci beaucoup, Sarah. Et maintenant, une histoire effrayante racontée par Chloé et Lilia, La main de Maupassant.
On faisait un cercle autour de Monsieur Bermutier, le juge d'instruction, qui donnait son avis sur l'affaire mystérieuse de Saint-Cloud. Depuis un mois, cet inexplicable crime affolait Paris. Personne n'y comprenait rien. Monsieur Bermutier, debout, le dos à la cheminée, discutait les diverses opinions, mais ne concluait rien. Plusieurs femmes s'étaient levées pour s'approcher et demeurer debout, l'œil fixé sur la bouche rasée du magistrat, d'où sortaient les paroles graves. Elles frissonnaient, vibraient, crispées par leur peur curieuse, par le besoin d'épouvante qui hante leur âme, les torturent comme une faim. Une d'elles, plus pâle que les autres, prononça pendant un silence. « C'est affreux ! Cela touche au surnaturel ! On ne saura rien !» Le magistrat se tourna vers elle.
« Oui, madame, il est probable qu'on ne saura jamais rien. Nous sommes en présence d'un crime fort habilement conçu. » Fort habilement exécuté, si bien enveloppé de mystères que nous ne pouvons le dégager des circonstances impénétrables qui l'entourent. Mais j'ai eu, moi, autrefois, à suivre une affaire où vraiment semblait se mêler quelque chose de fantastique. Il a fallu l'abandonner, d'ailleurs, faute de moyens de l'éclaircir.
Monsieur Bermutier sourit gravement, comme doit sourire un juge d'instruction. Il reprit.
N'allez pas croire, au moins, que j'ai pu, même un instant, supposer que cette aventure avait quelque chose de surhumain. Je crois cause normale, mais si, au lieu d'employer le mot surnaturel pour exprimer ce que ne comprenons pas, ne pouvons nous servir simplement du mot inexplicable. Cela vaudrait beaucoup mieux. En tout cas, dans l'affaire que je vais vous dire, ce sont surtout des circonstances environnantes, préparatoires, qui m'ont ému. Enfin, voici les faits. J'étais alors juge d'instruction à Ajaccio, une petite ville blanche, couchée au bord d'un admirable golfe qu'entourent partout les hautes montagnes. Ce qu'elle avait surtout à poursuivre là-bas, c'était les affaires de vendetta. Il y en a eu de superbes, de dramatiques au possible, de féroces, d'héroïques, des haines séduisantes, séculaires, apaisées un moment, jamais étreintes. Les ruses abominables, des assassinats devenant des massacres et presque des actions glorieuses. Depuis 2 ans, je n'entendais parler que du prix du sang, que de ces terribles préjugés. J'avais vu écorcher des vieillards, des enfants, des cousins. J'avais la tête pleine de ces histoires. Or, j'appris un jour qu'un Anglais venait de louer pour plusieurs années une petite villa au fond du golfe. Il avait amené avec lui un domestique français, pris à Marseille en passant. Bientôt, tout le monde s'occupa de ce personnage singulier qui vivait seul dans sa demeure. Il ne parlait à personne, ne venait jamais à la ville et, chaque matin, s'exerçait pendant 1 heure ou 2 à tirer au pistolet et à la carabine. Des légendes se firent autour de lui. On prétendit que c'était un haut personnage fuyant sa partie pour des raisons politiques. Puis, on affirmait qu'il se cachait après avoir commis un crime épouvantable. Je voulus, en ma qualité de juge d'instruction, prendre quelques renseignements sur cet homme. Mais il me fut impossible de rien apprendre. Il se faisait appeler Sir John Rowell. Je me contentais donc de le surveiller de près. Mais on me signalait, en réalité, rien de suspect à son égard. Cependant, je résolus d'essayer de voir par moi-même cet étranger et je me mis à chasser régulièrement dans les environs de sa propriété. J'attendais longtemps une occasion et elle se présenta enfin sous la forme d'un pyrdix que je tirais et que je tuais devant le nez de l'anglais. Mon chien me le rapporta et priait Sir Rowell d'accepter l'oiseau mort. C'était un grand homme à cheveux rouges, à barbe rouge très haut, très large, une sorte d'écule placide et polie. Il n'avait rien de la raideur dite britannique et il me remercia vivement de ma délicatesse en un français accentué d'outre-manche. Au bout d'un mois, comme je passais devant ma porte, je l'aperçus qui fumait sa pipe à cheval sur une chaise dans son jardin. Je le saluai et il m'invita à entrer pour boire un verre de la bière. Je ne me le fis pas répéter. Il me reçut avec toute la méticuleuse courtoisie anglaise, parla avec éloge de la France, de la Corse, déclara qu'il aimait beaucoup ce pays, avec de grandes précautions et sous la forme d'un intérêt très vif, quelques questions sur sa vie, sur ses projets. Il répondit sans embarras, me racontant qu'il avait beaucoup voyagé en Afrique, dans les Indes, en Amérique, et il ajouta en riant.
« J'avais eu beaucoup d'aventures, oh yes !»
Puis, je me remis à parler, chasse, et il me donnait des détails de plus en plus curieux, de la chasse, de l'hippopotame au tigre. « Tous ces animaux sont redoutables !» Il sourit.
Oh non, le plus mauvais, c'était l'homme.
Il se mit à rire, tout à fait, un bon rire du gros anglais content. J'avais beaucoup chassé l'homme aussi. Puis, il parlait d'âme et m'offrit d'entrer chez lui pour me montrer des fusils de divers systèmes. De grandes fleurs jaunes couraient sur l'étoffe sombre, brillaient comme du feu. Il annonça.
C'était une drape japonaise.
Mais au milieu des plus larges panneaux, une chose étrange me tira l'œil. Sur un carré de velours rouge, un objet noir se détachait. Je m'approchai, c'était une main d'homme. Non pas une main de squelette, blanche et propre, mais avec les ongles jaunes, les muscles à nu et des traces de sang ancien. Le sang, pareil à une crasse sur les os coupées nettes, comme d'un coup de hache vers le milieu de l'avant-bras. Autour du poignet, une énorme chaîne de fer rivée, soudée à ce membre malpropre, l'attachée au mur par un anneau assez fort pour tenir un éléphant en laisse. Je demandai « Qu'est-ce que cela ?» L'anglais répondit tranquillement.
Il venait d'Amérique. Il avait été fendu avec le sabre et arraché la peau avec un caillou coupant et séché dans le soleil pendant 8 jours. Ah, très bonne pour moi.
Je touchais ce débris humain. Démesurément long, était attaché par des tendons énormes que retenaient les lanières de la peau sur place. Cette main était affreuse à voir. Écorchée ainsi, elle faisait penser naturellement à quelque vengeance de sauvage. Je dis, cet homme devait être très fort. L'anglais prononça avec douceur.
Oh yes, mais je étais plus fort que lui.
D'un coup d'œil rapide, j'interrogeais son visage, me demandais, est-ce fou ou un mauvais plaisant? Mais la figure demeurait impénétrable, tranquille et bienveillante. Je parlais d'autre chose et 3 revolvers chargés étaient posés sur les meubles, comme si cet homme avait vécu dans la crainte constante d'une attaque. Je revis plusieurs fois chez lui. Puis je n'y allais plus, on s'était accoutumé à sa présence, il était devenu différent à tous. Une année entière s'écoula. Or, un matin, vers la fin de novembre, mon domestique me réveilla en m'annonçant que Sir Rowell a été assassiné dans la nuit. On ne put jamais trouver le coupable. En entrant dans le salon de Sir John, j'aperçus du premier coup d'œil le cadavre étendu sur le dos, au milieu de la pièce. Tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu. L'anglais était mort, étranglé. Sa figure noire et gonflée, effrayante, semblait exprimait une épouvante abominable. Il tenait entre ses dents serrées quelque chose et le cou, percé de 5 trous qu'on aurait fait avec des points de fer, était couvert de sang. Un médecin nous rejoignit. Il examina longuement les traces.
On dirait qu'il a été étranglé par un squelette.
Un frisson me passa par le dos et je jetai les yeux sur le mur, à la place où j'avais vu jadis l'horrible main écorchée. Elle n'y était plus. La chaîne, brisée, pendait. Alors, je me baissai vers le mort et je trouvai dans sa bouche crispée un des doigts de cette main disparue, coupée ou plutôt sciée par les dents. Puis, on procéda aux constatations. On ne découvrit rien. Aucune porte n'avait été forcée, aucune fenêtre, aucun meuble. Les 2 chiens de la garde ne s'étaient pas réveillés. Voici en quelques mots la décomposition du domestique. Depuis 1 mois, son maître semblait agité. Il avait reçu beaucoup de lettres brûlées à mesure. Il avait frappé avec fureur cette main séchée, scellée au mur et enlevée. On ne sait comment à l'heure du crime. Il se couchait fort tard et s'enfermait avec soin. Il avait toujours des armes à portée du bras. Souvent la nuit, il parlait haut, comme s'il ne fût querellé avec quelqu'un. Cette nuit-là, par hasard, il n'avait fait aucun bruit. Je communiquai ce que je savais de la mort aux magistrats et aux officiers de la force publique. Et on me fit dans toute l'île une enquête minutieuse. On ne découvrit rien. Or, une nuit, 3 mois après le crime, j'eus un affreux cauchemar. Il m'en sembla que je voyais la main comme un scorpion, ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. 3 fois, je me réveillais, 3 fois, je me rendormis. 3 fois, je vis le hideux débris galoper autour de ma chambre en remuant les doigts comme des pattes. Le lendemain, on me l'apporta, trouvé dans le cimetière, sur la tombe de Sir Howell, l'index manqué. Voilà, mesdames, mon histoire, je ne sais rien de plus. Les femmes éperdues étaient pâles, frissonnantes. L'une d'elles s'écria.
Mais ce n'est pas un dénouement, cela, ni une explication. Nous n'allons pas dormir si vous ne nous dites pas ce qui s'était passé, selon vous.
Le magistrat sourit. Mesdames, je vais vous gâter. Certes, vos rêves terribles. Je pense tout simplement que le légitime propriétaire de la main n'était pas mort. Qu'il est venu la chercher avec elle, ce qui lui restait. Mais je ne puis savoir comment il l'a fait. Par exemple, c'est là une sorte de vendetta. Une des femmes murmura.
Non, ça ne doit pas être ainsi.
Je vous avais bien dit que mon explication ne vous irait pas.
On arrive à la fin de cette émission.
J'espère que vous avez appris des choses et à très bientôt sur Radio Trentanelle. Joyeux Halloween!